With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Si la proposition se concrétise au Parlement, on sera campagne contre, ça c'est sûr.
Et voilà, la Quadrature du Net, association qui défend nos libertés numériques, est déjà prête à reprendre son bâton de pèlerin pour lutter contre un réflexe primaire chez le politique dès qu'on lui parle d'Internet, réguler n'importe comment avec n'importe qui. Ainsi, le président Macron vient d'annoncer son intention de confier la régulation de l'Internet au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce n'est pas la première tentative en la matière. En fait, ce fantasme existe depuis les années 90 avec l'arrivée du web dans les foyers et de la pornographie qui allait avec, mais surtout la publication online du livre « Interdit, le grand secret » qui évoquait la maladie cachée de François Mitterrand. Et déjà, il y avait des velléités de censure. Félix Tréguer, cofondateur de la Quadrature du Net, nous aide à nous souvenir des mauvaises idées de l'époque qui ont débouché sur rien, parce qu'elles mettaient déjà en danger les libertés fondamentales. Rappelez-vous, c'était en 1996, il est déjà question du CSA, et Félix Tréguer nous raconte.
Dans le cadre de l'examen de la loi qui privatisait France Télécom, François Fillon, ministre de la Communication à l'époque, propose un amendement qui étend donc la compétence du CSA à Internet, avec la mise en place d'un comité de déontologie qui aurait eu pour mission de labelliser des sites Internet. Et si un site était signalé comme contrevenant à cette charte déontologique fixée par le CSA, alors il aurait dû être censuré, bloqué par les fournisseurs d'accès à Internet français. Et donc ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel à l'époque, qui y voyait une compétence inconstitutionnelle qui ne pouvait pas être attribuée à une autorité administrative, puisqu'en fait, et c'est ça la question centrale, c'est que la liberté d'expression, c'est un droit fondamental protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que dans un état de droit qui se respecte, c'est une liberté qui doit être régulée par le juge judiciaire, qui a un statut, une autonomie, une indépendance. Et donc c'est ça la question centrale en fait politique derrière la controverse sur les compétences du CSA s'agissant d'Internet, c'est est-ce qu'on va continuer à approfondir l'extrajudiciarisation de la répression des abus de liberté d'expression sur Internet.
Internet a toujours dérangé, à juste titre d'ailleurs, quand il vient troubler la mécanique bien huilée des politiques dans leur objectif de maîtriser leur image et les débats. En fait, depuis les débuts, il reste un élément frondeur, imprévisible et difficilement domptable. Pourtant, certains aimeraient bien y mettre un peu d'ordre et avec une petite idée derrière la tête quand même.
La récurrence de ces débats, le symptôme du côté un peu poil à gratter d'Internet, du fait que c'est aussi un espace où les modes de représentation traditionnels du pouvoir, la manière dont les professionnels de la politique occupent l'espace public est passablement perturbé. Et donc, on le voit assez régulièrement dans les débats au Parlement sur la liberté d'expression sur Internet, où Internet est vraiment pointé du doigt comme un repère de gens dangereux qui n'ont aucune considération ou forme de respect pour le personnel politique, et ça les attriste, et ils en parlent, il y a vraiment des débats assez symptomatiques de ça. Et au-delà de ces questions politiques et qui sont effectivement récurrentes, il y a aussi une question plus économique, qui est le fait que Internet et l'arrivée de gros acteurs au niveau politique comme Google, Netflix et compagnie perturbent un autre oligopole qui est celui des médias de masse, des grands groupes audiovisuels français et européens, qui voient arriver ces acteurs dans la chaîne de l'économie de la culture et qui, du coup, voudraient que le CSA, qui est un régulateur de l'expression, mais aussi un régulateur économique du secteur audiovisuel, puisse intervenir pour rétablir des équilibres économiques qui sont un peu plus favorables aux groupes français et européens. Donc il y a toujours cette question-là aussi en toile de fond. Le CSA, c'est une autorité qui doit réguler ses groupes audiovisuels, mais on sait qu'il est assez proche de leurs intérêts. En tout cas, il sait se faire le porte-parole de ces groupes audiovisuels. Et donc il y a toujours aussi, enfin derrière les annonces récentes, le soupçon que il y a quand même ces logiques économiques qui président à ces stratégies de défense d'une compétence du CSA sur Internet. Et du coup, ça devient gênant lorsqu'on... Si c'était vérifié, c'est vrai que le fait de voir la question du racisme ou la question du sexisme instrumentalisée pour répondre à ces problématiques d'un secteur économique, c'est un peu gênant.
Félix Tréguer évoque là les questions de harcèlement, de menaces, qui ont amené à cette proposition de régulation par le CSA. Alors oui, Internet a aussi ses mauvais côtés, et vouloir les limiter est normal, tant ceux qui abusent de ces pratiques savent se jouer des règles qui devraient s'imposer à tous. Mais ce n'est pas une raison pour en profiter pour installer des formes de censure qui, évidemment, ne régleront pas les problèmes posés et seront des outils dangereux dans des mains mal intentionnées. Alors ne l'oublions pas, le numérique, c'est la vie, en fait. Et les outils, la législation nécessaire, nous les avons déjà à disposition. Sauf que, paradoxe de cette histoire, on a confié la gestion du débat public aux GAFA, Facebook et autres Google. Félix Tréguer nous explique.
Il y a effectivement beaucoup de dispositions dans le code pénal qui permettent déjà de lutter contre le harcèlement en ligne, contre les propos sexistes. D'ailleurs, parfois déjà, en se passant des principes inhérents à l'état de droit et notamment cette protection judiciaire de la liberté d'expression, puisqu'il y a un article dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 qui régule justement, qui prévoit des règles spéciales en matière de liberté d'expression sur Internet par rapport à la loi sur la presse de 1881, qui est le socle juridique transversal, disons. Et donc cette loi de 2004, elle a été amendée ces dernières années pour prévoir notamment que les grandes plateformes doivent avoir des systèmes de signalement des contenus, notamment des contenus sexistes, et elles doivent les retirer une fois que ces contenus leur sont signalés et qu'elles estiment que ces propos contreviennent au droit et sont donc constitutifs de propos haineux ou discriminants. Et si elles ne retirent pas ces contenus d'elles-mêmes, alors elles sont responsables devant un juge. Donc il y a une très forte incitation à des formes d'autorégulation qui légitiment et valident des formes de censure privée. C'est-à-dire que du coup, c'est un acteur comme Twitter, comme Facebook, comme Google, qui, en vertu du droit français, est obligé de se prononcer lui-même sur la licéité des contenus signalés. Et ce n'est pas un juge qui joue ce rôle-là. Et déjà, en soi, ça pose problème.
La question qui se pose est donc de savoir si techniquement Internet est régulable. Et si on y arrive, est-ce que cela peut poser un problème pour nos libertés fondamentales ? Spoiler, la réponse est oui.
La question de la régulation technique de la liberté d'expression sur Internet est centrale à l'heure actuelle. Ça fait longtemps que ces solutions techniques sont envisagées, depuis les années 90 en réalité. Ces dernières années, ces plateformes ont fait de gros progrès, si je puis dire, en la matière et notamment en matière de lutte contre les propos qui font l'apologie du terrorisme sous la pression des États. C'est-à-dire qu'il y a une pression très forte des gouvernements français, britanniques, notamment au niveau européen, mais allemand aussi, à faire en sorte de développer des algorithmes et des systèmes qui permettent de repérer automatiquement les contenus et les propos haineux, discriminants, illicites, et pour les censurer d'office. Et effectivement, cette régulation technique de la liberté d'expression s'accompagne de tout un tas de risques liés à des faux positifs, c'est-à-dire qu'on va, les algorithmes vont repérer des contenus qui n'ont rien à voir avec des choses très fines comme l'humour ou la satire qui peuvent aussi induire des biais et ne pas être pris en compte par les algorithmes. Enfin, il y a tout un tas de subtilités dans l'art du langage et le jeu avec les frontières de la liberté d'expression qui font que c'est extrêmement difficile de déléguer ce rôle de, juger de la licéité d'un contenu à des algorithmes.
Alors, au-delà de la déclaration d'Emmanuel Macron, il n'y a pas pour le moment de texte concret à soumettre à l'Assemblée nationale. Impossible de savoir non plus s'il n'y a là qu'un simple effet d'annonce.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.